Bonjour à tous et bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver sur Radio Judaïka Strasbourg pour un nouveau numéro de talk show. Notre invité est un journaliste. Il travaille sur CNews. Il a présenté plein d'émissions, notamment des journaux sur différentes chaînes. Bonjour Olivier Benkemoun.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, ça me fait très plaisir. Olivier Benkemoun, je vous présente comme journaliste ou journaliste politique ?
Ah ben, journaliste, les deux. Ouais. Je suis et journaliste politique et effectivement journaliste tout court. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait être très large. Alors, je suis plutôt les affaires politiques pour CNews, mais sur Europe 1, je continue à m'occuper de l'actualité des spectacles aussi de temps en temps. Enfin, même plus que de temps en temps, deux fois par semaine. Ouais. Je fais le cinéma et même j'ai une chronique sur les sorties spectacles. Moi, j'ai toujours pensé que il fallait être capable de parler de tous les sujets.
Justement, la culture et la politique, ça va pas super ensemble, non?
Non, ben si, ça va, au contraire, ça va. C'est même un objet de politique. On l'a vu là ces derniers jours avec ce qui se passait autour de la philharmonie et de la présence de l'orchestre israélien. On le voit avec Amir, on le voit avec Enrico Macias. On voit bien que la culture, elle est très politique. Elle est excessivement politique même.
C'est une demande de votre part ou c'est une proposition qu'on vous a faite de parler de culture aussi?
Moi, ça fait très très longtemps que je suis les affaires culturelles, ça fait plus de 15 ans. La plupart de ma carrière, je l'ai fait en suivant la culture, beaucoup le cinéma, en rentrant à Canal. Mmh. Et puis, ensuite, j'ai eu l'opportunité de refaire ce que je faisais, c'est-à-dire de la présentation, de la présentation au plateau, sauf que le métier a changé, que c'était plus des journaux qu'il s'agissait de présenter, mais des talk shows, des débats, et c'est devenu politique, et les choses ont fait que les propositions ont fait que je me suis spécialisé aujourd'hui dans la politique, parce que c'est la vie, la politique, c'est tous les deux, c'est tous les sujets, ça touche à tous les sujets, et moi tout m'intéresse. Alors, que ce soit les problèmes des agriculteurs, que ce soit les programmes des Français, de la vie quotidienne, voilà. Ça, c'est la vie comme elle devrait être gérée par les hommes et les femmes politiques dans ce pays.
D'accord, c'est un bon message pour le gouvernement. Olivier Benkemoun, il y a quelque chose qui me pose toujours des questions, et je voudrais que vous y répondiez. Qu'est-ce qui vous arrange le mieux ? C'est d'être en plateau, de faire des émissions où vous adorez sortir du plateau et faire de l'extérieur?
Les deux, ça dépend des missions à l'extérieur. C'est effectivement, si c'est pour avoir très froid pendant 8 heures devant l'hôtel Matignon, les portes fermées, à commenter les balais de voitures qui rentrent, qui sortent, sans avoir beaucoup d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur, il faut le faire, ça fait partie du métier, mais c'est pas très très intéressant. En revanche, j'ai eu la chance de pouvoir faire ces derniers mois des belles missions. Il y a un an, quasiment jour pour jour, j'étais aux États-Unis pour suivre l'élection de Donald Trump. J'étais dans le Michigan, ça fait partie de ces États qu'on basculait. Et puis, il y a quelques semaines encore, j'étais en Israël au moment où Donald Trump arrivait pour visiter et à la fois rencontrer à la Knesset l'ensemble des députés, rencontrer le président Herzog et faire obtenir ce que personne n'avait obtenu depuis des mois.
Okay. On va y revenir dans un instant plus en détail. Juste une question que tout le monde se pose. On dit souvent que CNews est une chaîne d'extrême droite qui comporte toujours les mauvaises choses en France. Comment vous répondez à ces gens-là?
C'est toujours le procès qu'on fait quand vous avez un ennemi, vous dites il est nazi, il est d'extrême droite, c'est un fasciste, etc. Moi, j'ai pas l'impression de participer à une œuvre d'extrême droite, si vous voulez, de soutenir l'extrême droite. J'ai l'impression qu'on avance des idées, on parle des sujets qui ont été mis sous le tapis pendant des années, des sujets de sécurité, des sujets qui concernent l'immigration. La gauche et la droite devraient s'en emparer. La gauche a des pudeurs terribles à s'emparer de sujets qui concernent les Français, qui inquiètent les Français, qui sont des sujets qui sont, si vous voulez, très très importants, que moi je considère très importants. C'est pas une question de gauche ou de droite. Mais dès que vous ouvrez un peu ce qui se passe sous le capot dans ce pays, vous allez percevoir des trucs fous qui arrivent. Donc moi, je n'ai pas l'impression de participer ou de faire la politique de l'extrême droite dans ce pays, ou d'être dans une chaîne, encore moins d'être dans une chaîne d'extrême droite. Je suis dans une chaîne de débat où vous avez des gens qui s'engueulent sans arrêt sur des plateaux. Donc la preuve qu'ils n'ont pas toujours au contraire, les avis qui sont les mêmes, pas toujours dans le même sens, bien au contraire. Et je pense qu'encore une fois, c'est toujours pareil quand on vous met dans un coin en disant vous êtes des fachos, etc. Regardez, vous êtes le méchant, vous êtes dans le camp du mal. Bah, d'abord, ça fait exactement l'effet inverse. Et c'est à force de dire ça aux gens, avant de les traiter de fachos, d'abord ils n'entendent plus. C'est des messages qui sont inaudibles. Ça n'intéresse plus personne. Quand vous n'avez plus d'arguments, voilà. C'est l'ultime argument et ça marche plus. Donc pour ça aussi qu'on est la première chaîne d'info, sans doute que les audiences continuent à augmenter sans arrêt. Mais non, moi je refuse le terme de chaîne d'extrême droite.
Bien sûr, un média d'opinion.
Chaîne de tous les Français. Ouais, média d'opinion. Il y a des gens qui ont des opinions, qui viennent les dire. Alors ça c'est évident. L'histoire des chaînes d'information a évolué. Moi, je l'ai accompagné au début. Je rappelle que c'était les journalistes, seuls les journalistes qui avaient l'information, qui avaient accès aux dépêches. Ouais. Avec l'arrivée des téléphones portables, tout le monde a de l'information. Donc si c'est pour vous dire ce que vous avez dans le téléphone portable, c'est pas la peine d'avoir une chaîne d'information. Vous avez France Info, la radio qui vous dit l'information. Mais ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de commenter. Enfin, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est de commenter cette actualité, de faire des reportages et de commenter cette actualité. Et de lui donner surtout un autre point de vue, qui n'est pas celui du point de vue qui a été pendant des années et des années, le même sur certains sujets, je le dis encore une fois, sur les questions d'immigration, sur les questions d'antisémitisme. Regardez même sur les questions d'antisémitisme. On a beau dire, qu'aujourd'hui les choses explosent, etc. Franchement, on avait des pudeurs de gazelle, encore une fois, à parler des actes antisémites sur les médias mainstream.
On va aussi en parler tout à l'heure. Je voudrais revenir sur une chose dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous étiez en Israël lors de la visite de Donald Trump, et également le jour où les otages ont été libérés. Quelle impression vous ressentiez ?
Bah écoutez, c'est une impression qui est double, peut-être triple. C'est-à-dire que il y a à la fois ce moment politique très important avec Donald Trump qui vient. À la fois qui est accueilli par le président et qui va faire ses discours à la Knesset. Il y a ce moment très important pour le peuple israélien et les juifs du monde entier, du retour des otages. Et il y a aussi, en même temps, le premier retour des morts, des dépouilles de ceux qui ont été enlevés le 7 octobre. Et en même temps, tout ça se passe au moment des fêtes. Donc, c'est comme un grand yo-yo émotionnel, un grand 8, si vous voulez, un grand bonheur, une grande joie, une grande tristesse. Et pendant ça, pendant toute la durée de mon reportage, de ma mission, de mon voyage, on a été les seuls, avec CNews, à être sur le tarmac, la seule chaîne française sur le tarmac à l'aéroport, pour voir Donald Trump. Les autres, sans doute, l'ont commenté en direct. Mais il y a un tel rejet de Donald Trump, d'une façon générale, encore une fois dans les médias mainstream, en disant « ce type-là, de toute façon, c'est l'horreur absolue ». Or non, il a des résultats, il obtient des choses. Cette visite était très importante, et je trouve qu'il y a eu une sorte de décision, j'ai du mal à comprendre de la part d'autres médias, de ne pas se rendre, de ne pas assister, de ne pas commenter ce moment qui était, me semble-t-il, un moment politique très 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 important. Et puis son discours à la Knesset. Ça, c'était encore une fois vraiment quelque chose de très important. Tout le monde avait l'opportunité d'être sur le tarmac, tous les médias, évidemment les médias israéliens étaient là et avaient monté des plateaux. Les médias internationaux étaient là, le monde entier était là, une seule chaîne française. Alors qu'on est le pays où il y a le plus de chaînes d'information en Europe. Donc ça, j'ai du mal à me l'expliquer, mais peu importe. En tout cas, nous, on était là. C'était encore une fois un moment très important. Et je suis très fier d'avoir pu le commenter en direct assez longuement.
Mais personnellement, ça vous a quand même dû vous interpeller, puisque on sait, je sais en tout cas que vous avez été souvent dans des manifestations ou des événements pour la libération des otages.
Oui, mais c'est une chose de demander la libération des otages, c'est une autre chose de voir les hélicoptères arriver devant les différents hôpitaux et puis de voir ces otages enfin libres. Et puis de pas voir cette... Je suis allé plusieurs fois en Israël, j'ai assisté à toutes ces mises en scène horribles, macabres, abominables, organisées par le Hamas, via des islamistes, etc. C'est une horreur. Là, ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. Il y avait une sorte d'euphorie. Et à un moment, je me trouvais avec des jeunes gens, des très jeunes gens, qui étaient devant l'hôpital, juste derrière les grilles de ce terrain où atterrissaient les aéroports. C'était une joie, mais une joie immense. C'est difficile à décrire cette joie. Ces garçons qui ont été retenus dans les tunnels de façon abominable, on le sait, de façon horrible, parfois enchaînés, parfois encagés, maltraités, violentés psychologiquement aussi, bien que physiquement, sont devenus des héros. Tout le monde connaît leur histoire, tout le monde connaît leur famille, tout le monde connaît leur kibbout, tout le monde connaît leur communauté. Et les communautés, d'ailleurs, se sont élargies. Ils sont venus, je ne vais pas dire des stars, mais... Il n'y a pas d'équivalent, en fait. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point ils sont importants dans la cité et dans la société israélienne. Donc, ils sont devenus des héros, en quelque sorte. Et ces héros, être là pour les accompagner, pour les accueillir, ça, c'était quelque chose de très, très fort. Aussi fort que ce moment historique, à mon avis, qu'a été la venue et le discours et les discours qui ont été prononcés à la Knesset lorsque Donald Trump était là. Et puis, il y a ce troisième moment, qui est un moment de tristesse absolue, qui est celui du deuil qui peut enfin commencer, en quelque sorte, de l'arrivée des dépouilles des otages. Ça aussi. Et vous passez de l'un à l'autre. Et moi, je suis allé à l'enterrement du premier de ces garçons qui s'est déroulé à Hanana, une ville très francophone, vous le savez tous, en Israël. Et là, vous aviez un cimetière rempli pour ce garçon qui se prénomme Guy. Il y avait un millier de personnes qui étaient là, qui accompagnaient le départ de ce garçon. Et c'était vraiment toute la route depuis Tel Aviv jusqu'à Ranana était bordée de drapeaux, de gens qui étaient là, qui accompagnaient sur le bord de la route, et puis le cimetière, évidemment, tous les médias aussi qui ont assisté à ça, parfois, pour les médias israéliens qui ont diffusé en direct ces obsèques, la tristesse de ses sœurs, la tristesse de son père, de ses parents, évidemment. C'est ça, moi, je retiens de ce voyage, encore une fois, c'est des moments émotionnels qui sont très forts, mais tous très forts et très différents.
Alors, Olivier Benkemoun, on parle un peu d'actualité. Il y a un cessez-le-feu qui a été signé, un traité de paix qui, bon an, mal an, va avancer. Vous croyez à la possibilité de ce traité de paix ?
C'est la question la plus difficile. C'est-à-dire que je n'ai aucune confiance aux terroristes. Voilà, le Hamas continue à être armé, le Hamas continue à recruter des jeunes gens, le Hamas est renforcé de centaines, de milliers de prisonniers qui sont sortis des prisons israéliennes. Certains étaient condamnés à vie, je rappelle, donc c'est des types qui sont idéologisés à fond. Donc l'idéologie du Hamas, elle n'est pas morte, au contraire, Tout le travail qui avait été fait par Tzal, qui était très important, se retrouve parfois annulé par l'arrivée de ces anciens nouveaux combattants qui vont renforcer ces... Voilà. Et aujourd'hui, il y a ce cessez-le-feu qui est très important. D'ailleurs, qui ne tient pas beaucoup, on voit bien qu'il y a encore des tunnels, il y a encore des attaques contre les militaires israéliens. Et ça... Voilà, il suffit pas de dire, comme l'a fait Trump, c'est terminé, maintenant c'est le cessez-le-feu, pour que ça s'arrête. Donc, il y a des menaces. Le plus important, là, c'est que tous les corps soient rendus jusqu'au dernier, pour passer à la nouvelle phase.
C'est pas le cas encore.
pendant qu'on attend, hein, il y a encore une dizaine de corps qu'on attend, pendant qu'on attend, eh bien, il ne se passe pas rien, voilà, à Gaza. Il ne se passe pas rien dans la bande de Gaza. Au contraire, on voit toujours ces images de gens qui continuent à avoir des armes, les armes qui semblent être neuves, des jeunes gens de plus en plus jeunes qui semblent enrôlés. Bon, voilà, donc, j'ai du mal, sincèrement, du plus profond de mon cœur, j'espère qu'effectivement, la guerre va s'arrêter, que la reconstruction va pouvoir commencer, qu'un nouveau processus politique va se faire, qu'il y aura un désarmement absolu du Hamas, que ces terroristes vont quitter ce pays. Enfin, voilà, évidemment que je le souhaite de tout mon cœur. C'est pas ce que je vois. C'est ce qui me rend terriblement sceptique.
Alors, on va venir à l'actualité française, l'actualité politique. La question, est-ce que le budget va être finalement voté, à votre avis? Et est-ce que Sébastien Lecornu va rester Premier ministre dans les semaines qui viennent?
C'est évidemment la question est extrêmement difficile.
Oui, c'est pour ça que je vous la pose.
Je crois que la discussion budgétaire va se poursuivre, mais je ne crois pas que le budget soit voté. Ah. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la bataille d'amendements a lieu à l'Assemblée. On a vu le texte des recettes avec des amendements qui sont plus fous parfois les uns que les autres.
Ouais,
il y en a quand même, je vous rappelle, il y a un amendement LFI qui a été proposé pour taxer les entreprises françaises qui, soi-disant, auraient aidé ou financer des sociétés israéliennes qui sont accusées de génocide. Voilà, voilà le genre d'amendements qui ont pu être à un moment
déposés.
Voilà, ils proposaient, refusaient évidemment, mais qui sont passés quand même par des filtres. C'était absolument inconstitutionnel, ça n'aurait même pas dû arriver, ça. Donc je ne sais même pas comment on a pu avoir des discussions pareilles qui, évidemment, ont ralenti la discussion budgétaire. Donc, à la fin, je crois que on va pas arriver au terme de la discussion, c'est-à-dire que tous les amendements ne seront pas regardés, étudiés, donc on va s'arrêter à un moment donné, le budget ne sera pas voté, ça va partir au Sénat qui va faire un autre travail en partant quasiment d'une feuille blanche, la commission mixte paritaire, à la fin c'est quand même l'Assemblée qui a le dernier mot, et ça sera pas adopté. Et donc, au final, le gouvernement passera soit par une loi spéciale, soit par des ordonnances. Il n'y aura pas de nouveau budget. On va aller sur un budget qui a été celui proposé ces derniers mois par François Bayrou, notamment. Donc, voilà, je ne crois pas. Je pense que ça, c'est la première chose. Alors ensuite, il y a les questions de censure. Uh-huh. Est-ce qu'il peut y avoir un nouveau texte proposé, une nouvelle proposition de censure? Oui, il peut y avoir. Est-ce que ce sera voté? J'en ai aucune idée, mais je pense que s'il y a effectivement une censure, on ira vers une dissolution, on ira vers des élections. Je ne le vois pas tout de suite. Voilà, pour tout vous dire, je ne vois pas ce scénario s'ouvrir à nous. Voilà, mais les députés et la classe politique française nous habitue à des choses qui sont très inattendues.
On l'a parlé tout à l'heure en point de vue sur l'antisémitisme en France qui a doublé, triplé. Est-ce que vous avez été victime de cet antisémitisme-là?
Oui, bien sûr. Mais il y a deux choses. C'est-à-dire que d'abord, quand vous êtes juif, moi, j'ai jamais changé de nom, je me suis jamais caché. Vous êtes la victime, effectivement, des antisémites. Et quand vous travaillez sur CNews, vous avez la double étiquette de Tintin Chaud. Ouais, donc, moi, je suis doublement la cible des antisémites et du camp du bien, en quelque sorte. Ceux qui se disent, en tout cas. Mais c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a les réseaux sociaux et la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est pas le cas. Dans la vraie vie, je peux me promener dans la rue, je peux prendre le métro, je peux faire du sport, je peux vivre normalement, je peux amener les enfants à l'école, il n'y a pas de problème. Les gens sont plutôt bienveillants, sont plutôt gentils, viennent plutôt me voir pour nous féliciter du travail qu'on fait, pour nous dire de rien lâcher, pour nous dire que notre combat est important, pour nous dire que ce qu'on dit est parfois la vérité, une vérité qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre. Donc voilà, ça c'est ce que j'entends dans la vraie vie, des vrais gens qui viennent me voir. S'ils ne sont pas contents, les gens nous disent et puis on discute. Mais il y a un autre aspect des choses et celle des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est abominable. Les réseaux sociaux, c'est une infamie. Les réseaux sociaux, c'est une ignominie. C'est dégueulasse, c'est ce qui s'y passe. Donc, effectivement, la première fois qu'on vous menace de mort, vous êtes inquiet et vous avez peur pour vous, pour les vôtres, pour votre famille. Et puis en fait, d'une certaine manière, ça passe, ça glisse, parce que les méchancetés, l'antisémitisme, les accusations, les saloperies, tout ça, et à un moment donné, ça reste numérique. Ça reste numérique. Je vais vous dire, j'ai fait aussi des signalements auprès de la plateforme Pharos, qui m'a gentiment renvoyé vers la police en me disant qu'il faut déposer plainte, etc. Bon, j'allais à un moment, mais l'antisémitisme existe, l'antisémitisme est là, l'antisémitisme, on le voit, l'antisémitisme prend en plus des formes qui s'éloignent de plus en plus de ce qui se passe au Proche-Orient, vous le savez. Ouais. En ce moment, il y a un cessez-le-feu. En ce moment, on devrait avoir des gens dans la rue qui manifestent en disant comment je peux aider les humanitaires, comment je peux faire pour faire que la paix avance. Non, les Juifs continuent à être des cibles, Amir continue à être une cible, la Philharmonie continue à être une cible. Enrico Macias continue à être une cible, et les journalistes juifs continuent à être des cibles, et les journalistes de CNews qui défendent la position d'Israël continuent à être des cibles.
Alors comment vous entre guillemets, vous vivez ça, vous êtes droit, vous allez à la synagogue si vous y allez, vous avez votre mezouza à la porte, ou vous avez décidé de vous cacher un peu?
Moi, je me cache pas, mais je suis pas pratiquant, je suis pas du tout. Donc, je vais pas à la synagogue. Je n'ai pas épousé une femme juive, etc. Donc, ma culture est chacun à la sienne. Mais je suis juif, hein. Mais j'ai pas changé ma vie. J'ai pas modifié ma façon de vivre du tout, du tout, du tout. Et ça aurait été un renoncement, et ça aurait été vraiment une chose terrible, je trouve. Voilà, donc, pour ma part, pour ce qui me concerne, j'ai pas changé. De temps en temps, on regarde un peu derrière, on regarde un peu sur le côté, on fait un peu plus, j'ai un peu plus attention en sortant de chez soi, en sortant du travail aussi. Vous avez des grands espaces parfois en sortant de ces news d'Europa, c'est des grandes dalles de béton. Alors maintenant, ils ont mis des barrières, et il y a toujours des gens qui traînent, des voitures, etc. Faut faire un tout petit peu plus attention. Les gens ont eu tendance quand même à se replier sur eux. Non pas qu'ils aient peur, mais ils sont solides, je pense que voilà. Mais se replier vers la communauté, parce que c'est des choses où des endroits où on se sent bien. Un restaurant cachère, c'est un endroit où on se sent bien, parce qu'on se sent pas épié, on se sent pas regardé, on se sent en sécurité. Voilà.
Alors, Olivier Benkemoun, malheureusement, le temps nous presse, donc c'est pour ça que je suis obligé de vous avancer un peu, vous connaissez ça. Je voudrais avoir votre réaction sur une actualité qui fait beaucoup parler d'elle, c'est la victoire à New York du maire Madani.
Ouais.
Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre analyse?
J'ai été assez étonné en fait, du vote des Juifs à New York. Bon, parce qu'il y a une partie, de tête, je crois que c'est 25 à 30%.
30%, 30%.
30% des Juifs qui votent à Madani. Bon. Donc ça veut dire qu'il a fait une campagne qui a convaincu quand même 30% de la communauté juive israélienne, de New York.
De New York.
Donc il y a un truc qu'on n'arrive pas à lire comme il faut en France. Je pense pas que ce soit des imbéciles. Les Juifs new-yorkais, certains ont participé à des mobilisations, on les a vus aussi, à des mobilisations pro-palestiniennes. C'est le droit. Et y a des Juifs de gauche, comme il y a des Juifs de droite, etc. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, et d'essayer d'analyser la campagne de Madani. On peut dire que c'est un pro-palestinien, on peut dire qu'effectivement, il s'est servi, comme beaucoup d'hommes politiques de gauche et d'ultra-gauche, du ressort pro-palestinien, de parfois l'antisémitisme, des propos ambigus, plus qu'ambigus d'ailleurs sur le 7 octobre, des propos pour dénoncer Israël, etc. Il s'en est servi, mais très franchement, en regardant sa campagne, l'argent de sa campagne n'a pas été, elle n'est pas comparable à celle de Rima Hassan, par exemple, où c'est uniquement une campagne basée sur la haine d'Israël et la haine des Juifs. Ça n'a pas été ça, sa campagne. Sa campagne, elle a été très différente. Elle s'est faite à hauteur de New Yorkais. Il a fait tout ce que font les New Yorkais. Il était inconnu il y a un an, ce homme-là. Il a fait pendant un an des vidéos virales pour dire avant tout aux New Yorkais, leur parler de leurs problèmes, c'est-à-dire que les problèmes de gel de loyer, la promesse de geler les loyers, effectivement, sur 5 ans, les loyers ont pris 40% à New York. Et les salaires ont augmenté de 5%. Donc, ça allait concerner la gratuité des transports en commun. Et ça concernait, voilà. Et puis, il a fait des messages en espagnol. Il a fait des messages, évidemment, en arabe aussi. Il est allé chercher les votes communautaires, mais pas que. Et c'est pour ça, d'ailleurs, à mon avis, qu'il a touché le plus grand nombre. Il s'est mis à hauteur de New Yorkais. Lorsqu'il va, par exemple, au stade de baseball, il ne se met pas au premier rang avec les stars. Il se met au dernier rang, tout en haut du stade pour dire je suis un New Yorkais comme les autres, je fais du vélo, je marche, je cours avec les New Yorkais, je me mets à l'eau avec le club des ours polaires de Coney Island, le jour de Noël où il fait froid avec son petit costard mal taillé, et il va et dit je gèle. Et ça a été le slogan qui a le plus marché, je gèle les loyers, ça a été ça sa campagne. Mais après, c'est un type dont je me méfie, c'est un type qui vient de l'ultra-gauche, c'est un type qui a eu des propos abominables, encore une fois abominables sur Israël, une ambiguïté impardonnable, et voilà, il faut faire très, très attention, mais je pense que les démocrates, comme les républicains, ont été incapables d'analyser bien les choses, et ils ont perdu New York, qui est une grande perte.
Alors, on va terminer cette émission, puisque le temps vraiment nous embête et on doit rendre l'antenne. Votre actualité, Olivier Van Kemoun, dans les semaines et mois qui suivent, je pense que vous avez beaucoup travaillé avec votre émission politique.
Écoutez, moi, je n'ai pas d'émission politique et je suis au service, évidemment, de la chaîne pour faire du commentaire politique, ce que je fais tous les week-ends, le soir, les vendredis au dimanche, je travaille jusqu'à minuit. On a un service politique très, très, très important et il faut... Voilà, moi, j'en fais partie. Je continue à suivre, encore une fois, l'actualité des spectacles du cinéma pour Europe 1. Mais ce qui va nous animer dans les prochains jours, mais écoutez, même dans les... Vraiment, suite, là, on arrive au 13 novembre, il y a des commémorations, et à mon avis, tout ça est lié, c'est-à-dire que la haine absolue de l'Occident par des islamistes radicaux est un peu ce qui s'est passé au Bataclan et ce qui s'est passé à Paris il y a 10 ans est très comparable, est très très comparable à ce qu'on a vu le 7 octobre. Et très franchement, je vais terminer là-dessus parce que c'est pas mon actualité qui est importante, c'est mon ressenti sur ces deux années qui viennent de passer. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai participé à des marches, je suis allé à de nombreux hommages. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'on ne fasse pas le lien dans ce pays entre le 7 octobre et les attaques des terroristes en France, notamment du Bataclan. Et j'ai regretté, et je l'ai dit plusieurs fois publiquement, j'ai regretté que les victimes et les familles des victimes du terrorisme aveugle, ignoble, sanglant, les victimes et les familles des victimes du Bataclan et des attentats de Paris ne soient pas aux côtés à chaque fois des victimes et ne soient pas présentes lors des hommages pour les victimes du 7 octobre. Ça, je n'ai jamais compris, je ne me l'explique pas, et pourtant, il y a bien des points qui sont communs dans ce terrorisme et dans cette lutte contre le terrorisme.
Olivier Van Kemoun, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Ça m'a fait terriblement plaisir de pouvoir discuter avec vous. On m'a dit, tout le monde m'a dit, Olivier Van Kemoun, tu verras, il est très sympa. Eh ben, ça n'a pas raté. Merci beaucoup, à très très bientôt.
Merci
au revoir.
Merci.